sommes en compagnie de Nicolas Bavrez qui publie « Danser sur un volcan » aux éditions Albin Michel. Et nous pouvons dialoguer avec lui en compagnie de Brice Couturier et de Marie Viennot. Le grand réveil des nations et des religions, c'est donc l'un des chapitres de votre livre, Nicolas Bavrez. Et vous citez Tocqueville, « Il n'y a au monde que le patriotisme et la religion qui puissent faire marcher pendant longtemps vers un même but, l'universalité des citoyens. » C'est l'universalité des citoyens qui est aujourd'hui discutée en France autour du projet de déchéance de nationalité. Quel est votre sentiment sur ce projet de loi ?
Alors, ce n'est pas un projet de loi, c'est un projet de révision de la Constitution. Et depuis le départ, je pense que ce projet est absurde. On vient de le rappeler. Nous avons eu un temps, un fait divers et un projet de loi de révision de changement de la loi pénale. Aujourd'hui, c'est un attentat, une révision de la Constitution. Je crois que la Constitution, c'est quelque chose de très important. C'est la loi fondamentale entre les citoyens. On ne doit la toucher qu'avec beaucoup de précautions et pour des raisons qui soient des raisons vraiment extrêmement profondes. Donc, les deux parties de ce texte me paraissent totalement artificielles. D'abord, je rappelle que dans notre Constitution, nous avons déjà beaucoup de formules de circonstances exceptionnelles. Il y a l'article 16 qui transfère les pouvoirs au président de la République. On a l'état de siège. Et par ailleurs, on a fait la démonstration que l'état d'urgence pouvait très bien marcher. Il a marché en 2005, on l'a actionné. On l'a actionné de nouveau aujourd'hui. Et par ailleurs, on est en train de faire rentrer dans la loi pénale ordinaire toutes les dispositions de l'état d'urgence. Donc, ce projet est malheureusement un nouvel exemple de gesticulation politique sans aucune raison juridique sérieuse. Il va continuer à abîmer un peu la Constitution et donc à affaiblir l'ensemble de l'état de droit dans notre pays.
Mais si vous deviez mettre de côté un moment votre raisonnement juridique pour faire de la politique ou bien aborder les questions sociétal derrière ce projet, que diriez-vous, Nicolas Bavrez ?
Oui, je dirais la chose de bon sens, c'est-à-dire que ce dont notre pays a besoin, puisqu'on on a affaire effectivement avec l'État islamique, à une menace intérieure et extérieure d'un nouveau type. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une stratégie globale de lutte contre l'État islamique. Cela veut dire, premièrement, effectivement, une partie militaire qui soit beaucoup plus intégrée au Moyen-Orient et aussi en Afrique du Nord, où le problème est maintenant en Libye, mais peut-être demain en Tunisie. Et donc, il faut, par exemple, aider aujourd'hui beaucoup la Tunisie. Deuxièmement, l'alignement diplomatique. Troisièmement, il faut priver de ses ressources économiques l'État islamique. Et là, beaucoup reste à faire sur le plan pétrolier, trafic d'armes, trafic d'œuvres d'art, trafic d'êtres humains surtout. Et puis, on a enfin une réponse policière, mais sur ce plan-là, ce qu'on est en train de découvrir avec l'arrestation de Salah Abdeslam et tout ce qui s'est passé autour, c'est la profondeur, la complexité de l'opération du 13 novembre, qui est une opération militaire avec un degré de profondeur et de qualité d'exécution, malheureusement, surprenante encore aujourd'hui. Donc, que constate-t-on aujourd'hui ? C'est qu'il y a beaucoup de progrès à faire sur la réforme de l'organisation du système policier dans notre pays, qui reste extrêmement cloisonné. Nous n'avons pas ni programmation au sein du ministère de l'Intérieur, contrairement à la Défense, ni un centre opérationnel pour la sécurité nationale. Et puis, on voit également que la menace est européenne. Et ce qui se passe en Belgique nous montre combien l'État islamique a réussi à très bien identifier les faiblesses d'organisation, des nations, et puis la faiblesse d'organisation de l'Europe. Donc, il faut absolument travailler là-dessus. Et c'est ça la véritable réponse, c'est pas la révision de la Constitution.
Brice Couturier.
Vous le dites, Nicolas Bavrez, dans Danser sur un volcan, un certain nombre de pays avant le nôtre, la Suède, le Canada, la Nouvelle-Zélande, puis l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, se sont réformés dans le sens que vous indiquez. Vous expliquez que la France, elle, dans le déni de la religion, réalité de son déclassement, et vous citez des chiffres impressionnants qui témoignent de la réalité de ce déclassement, refuse en réalité ces réformes qui ont permis aux autres de redécoller, de se redéployer. Pour faire ce type de réforme, il a fallu dans les pays que vous citez un consensus politique assez fort. En France, vous le montrez, il y a eu dans la rue, après les attentats de janvier 2015, une ambiance d'union nationale. Cette ambiance d'union nationale n'a pas été reprise à son compte par la classe politique qui reste extrêmement déconnectée d'ailleurs des préoccupations générales des Français. Comment mener à bien les réformes que vous préconisez en l'absence d'un consensus politique minimal des dirigeants de ce pays ?
Alors, d'abord, c'est vrai que beaucoup de pays ont changé et ce qui est très important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Chacun doit se transformer, mais en fonction de son histoire, de ses structures. Quand on regarde la France, nous n'avons ni la City britannique ni l'industrie allemande. Mais on peut faire beaucoup de choses sur le plan économique. C'est un pays qui, normalement, est un pays béni des dieux où on peut faire aussi bien de l'agriculture, de l'industrie, de la place financière, du service, de la construction et du tourisme. Donc, et tous ces secteurs aujourd'hui sont bloqués, malheureusement. Mais donc, chacun, de même qu'en 1945, la France a trouvé un modèle original pour se reconstruire, aujourd'hui, il ne s'agit pas de copier ce que font les autres, mais de trouver un modèle original pour la France du XXIe siècle. Ensuite, comment est-ce que les pays bougent ? Normalement, c'est par l'élection. C'est pas toujours par le consensus. Si on regarde le Royaume-Uni, on a eu trois très fortes personnalités, Madame Thatcher, Tony Blair, David Cameron. Et à chaque fois, il y a eu un vrai débat. Ces responsables ont été investis et ils ont appliqué leur programme libéral pour Madame Thatcher, la troisième voie pour Tony Blair, et puis le programme d'austérité de Cameron. Donc, ce qui est important, c'est qu'on doit avoir une démocratie qui fonctionne, qui débat, mais des problèmes réels, pas de posture comme c'est malheureusement le cas en France, ou de faux thèmes purement démagogiques. Et franchement, ce qui s'est passé sur la révision constitutionnelle en est un très bon exemple. Il n'y a pas d'homme providentiel pour l'instant ou de femme providentielle dans notre pays, ça se saurait. Donc, il faut arriver à faire bouger les choses.
C'est une bénédiction par ailleurs.
Il faut faire bouger les choses par le débat démocratique.
Oui, mais vous dites aussi, et c'est paraît tout à fait exact, que plus le blocage économique se poursuit et plus le risque de montée du populisme monte, grimpe évidemment, et que donc plus la réforme devient difficile. Et il n'y a pas qu'en France, entre parenthèses.
Exactement.
On voit qu'en Trump, le phénomène Trump aux États-Unis.
C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a une autonomie du politique. Et donc, le problème du populisme, on peut regarder aussi l'Europe du Nord, ce sont des pays qui vont plutôt bien économiquement, on a aussi du populisme. Donc, nous sommes dans une configuration où, évidemment, le monde est très différent de celui des années 30, mais nous avons des éléments de configuration qui ne sont pas complètement étrangers, c'est-à-dire une structure déflationniste. Vous avez rappelé tout à l'heure les taux négatifs, c'est la raison fondamentale de ces politiques monétaires. Des problèmes de chômage très importants, la déstabilisation des classes moyennes, et enfin un grand doute identitaire et des menaces sécuritaires internes et externes. Et c'est vrai que ceci nourrit le populisme dans toutes les démocraties. Vous avez rappelé les États-Unis avec Trump. Il suffit de voir aussi le résultat des élections allemandes sur les Länder avec la percée de l'AFD.
Marie Viennot.
Alors, je voulais revenir encore sur cette réforme du marché du travail. Donc, on comprend que c'est un enjeu de compétitivité. Nos voisins européens l'ont fait et ce sont nos concurrents pour l'implantation d'entreprises étrangères ou même pour la délocalisation d'activités de production en France. Je citais vendredi le cas de l'impression des livres qui de plus en plus va vers l'Espagne, l'Italie ou les pays de l'Est. Donc, on comprend la logique. Mais jusqu'où nous mène-t-elle cette compétition pour la compétitivité au sein de l'Union européenne? Est-ce que c'est ça le projet européen ?
Alors, il y a deux choses qui sont très différentes. Je crois qu'il faut. Nous sommes dans un système où, de fait, il n'y a pas que les entreprises qui sont en compétition. Il y a des systèmes de décision publique et des systèmes sociaux. Donc, chaque nation doit essayer de s'organiser. La France ne sera jamais un pays à bas coût. On oublie toujours que la compétitivité, il y a les prix et il y a la qualité. Or, nous avons beaucoup perdu sur les deux, sauf certaines filières très particulières, comme par exemple l'aéronautique ou le luxe. Donc, on peut parfaitement avoir un système de protection sociale élevé et dense si on a une bonne productivité, une bonne compétitivité et des produits de qualité. Et l'Allemagne en fait, par exemple, la démonstration. Ensuite, nous devons aussi travailler à la remise en ordre de l'Europe, puisque l'Europe, elle est en train d'éclater. On a eu la crise de la zone euro, qui n'est pas terminée, quoi qu'on en dise, la menace du Brexit, et puis aujourd'hui la crise des migrants, qui déstabilise le couple franco-allemand et le leadership allemand. Donc l'Europe doit aussi travailler sur...
Mais on voit bien sur les questions économiques que l'Europe est un terrain de compétition, c'est pas un terrain de partenariat réel.
Mais si, elle est aussi un terrain de partenariat, elle est les deux. Mais c'est un peu la même chose d'ailleurs au plan mondial. Il y a des formes de partenariat avec les États-Unis et il y a des formes de compétition.
Brice Couturier.
Est-ce que vous préconisez un système d'intégration de l'industrie avec les pays de l'Est, comme l'ont fait les Allemands? Par exemple, les Allemands ont délocalisé une très grande partie de la production automobile en se gardant en Allemagne le marketing, la conception, l'innovation, la recherche. Est-ce que la France aurait raté quelque chose de cet ordre-là en refusant de déconcentrer un centre de sa production?
Alors, elle l'a fait parfois. Et si on regarde, par exemple, l'industrie automobile, c'est la grande différence entre Renault et Peugeot. Renault, avec son alliance avec le Japon, a réussi à s'internationaliser beaucoup plus. Et Renault, d'ailleurs, est un exemple intéressant avec, pour l'entrée de gamme, les usines, notamment, qui sont en Afrique du Nord. C'est là où chacun doit faire avec son héritage. C'est vrai que l'Allemagne, de manière historique, avec la Ligue hanséatique, avec ses familles, a été très présente en Europe centrale et orientale. La France, beaucoup moins. Mais je rappelle que la France, elle a un atout considérable, qui est la francophonie. Il y a l'essor de l'Afrique aujourd'hui. Si on veut se donner un peu de mal, aujourd'hui, la France, elle a aussi ses émergents, si elle veut les regarder et arrêter de dire et de répéter que l'Afrique est perdue pour la démocratie et le développement, ce qui est faux.
Nicolas Bavrez, il y a 13 ans, votre livre sur la France qui tombe était évidemment situé dans un autre contexte, un contexte où on parlait d'abord de fin de l'histoire, c'était donc la queue de la comète Fukuyama, et puis l'autre idée prégnante était que l'on n'avait pas saisi à nouveau l'ordre du monde qui changeait et le retour de la guerre. Aujourd'hui, le retour de la guerre est inscrit dans l'actualité quotidienne. Votre sentiment sur la manière dont les cartes à l'échelle internationale sont rebattues aujourd'hui?
Le grand clivage, comme je le rappelais au départ, ce sont les pays qui sont capables de se réformer et les autres. Regardez l'exemple des fameux BRICS. La Chine continue à se réformer de manière extrêmement active. Elle pilote son atterrissage en douceur. Elle le fait au prix d'un durcissement idéologique intérieur et d'une agressivité extérieure avec beaucoup de nationalisme et la volonté de contrôler la mer de Chine. De l'autre côté, on a des pays qui ne se réforment pas et qui sont en grand danger. Le Brésil va accumuler pratiquement 8% de PIB en moins en 2 ans. C'est la pire récession depuis les années 30. Et par ailleurs, il y a une crise politique énorme. Vladimir Poutine fait une démonstration de force militaire et diplomatique. En revanche, son économie est aussi en train de s'effondrer. L'Afrique du Sud est gangrenée par la corruption et aujourd'hui stagne. Donc, on voit bien à travers cette catégorie, d'ailleurs à mon avis artificielle, qui avait été créée, que c'est ce clivage qui montre que les pays fonctionnent ou pas. Et vous rappeliez tout à l'heure le marché du travail. Là où la France est un cas clinique, c'est que quand on regarde aujourd'hui autour de nous, dans les démocraties, mais sans aller d'ailleurs forcément chercher les États-Unis, mais en Europe, nous sommes les derniers à n'avoir rien fait. Et donc, nous en payons le prix.
Mais en revanche, on a fait quelque chose à l'échelle internationale. Les pays que vous évoquiez tout à l'heure, de la Libye au Mali, sont des pays où l'action de la France existe. Avons-nous retrouvé une partie de notre prestige international, selon vous, Nicolas Bavrez?
Alors, la France, je pense, aujourd'hui, est surexposée d'un point de vue militaire. C'est vrai que c'est admirable, et on doit en être reconnaissant à nos forces armées, d'arriver dans le Sahel à tenir un espace qui, à la surface de l'Europe, avec 3500 hommes. En même temps, c'est extrêmement risqué et on se rend bien compte qu'on est à la limite de ce qui est faisable. Et nous avons un problème de soutenabilité de cet effort militaire d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue financier. Donc les armées françaises aujourd'hui surconsomment leur potentiel et autour de 2020, si on ne réinvestit pas de manière lourde, nous aurons donc ça nous vaut un crédit diplomatique. Mais si on regarde par exemple l'Europe, aujourd'hui le leadership de l'Europe est assumé par Madame Merkel seule. Les problèmes économiques et sociaux français nous ont fait perdre notre capacité de peser sur le système. Et les deux personnes qui gèrent aujourd'hui l'euro sont Madame Merkel et Mario Draghi, avec la politique monétaire qui a été rappelée tout à l'heure.
Brice Couturier.
À la fin des années 90, à la fin du XXe siècle, on avait deux modèles en tête, celui d'Huntington et celui de Fukuyama. Fukuyama nous promettait le déploiement de la démocratie à travers le monde sur le modèle tocquevillien, c'est-à-dire inéluctable. Et Huntington, au contraire, nous disait que nous allions vers un heurt entre les civilisations, entre des blocs civilisationnels, plutôt qu'entre les nations traditionnelles. Vous le dites à un moment dans votre livre, Huntington, qui a été beaucoup décrié par l'intelligentsia française, finalement, c'est lui qui triomphe aujourd'hui.
Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il triomphe. Il a vu un certain nombre de choses certainement mieux que Fukuyama. Donc, il y a trois grandes illusions qui sont intellectuelles, qui nous sont venues, et des idées fausses et simples qui nous sont venues des États-Unis. Il y a eu l'idée de la fin de l'histoire. Il y a l'idée de la fin du travail avec Jeremy Rifkin, alors qu'on a pratiquement plus de 2 milliards de gens qui sont entrés dans le capitalisme. Et puis ensuite, il y avait l'idée que la Terre était plate, alors qu'on voit ressurgir les frontières et les murs partout. Huntington a vu deux choses très importantes, le retour de la guerre et de la religion. En revanche, vous parliez des civilisations, il s'est tout à fait trompé sur la manière dont ça allait se réordonnancer, parce que dans ces grandes plaques qu'il voyait, lui voyait une alliance entre l'Asie et le monde musulman contre l'Occident. Or, c'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'aujourd'hui, le djihad mondial pèse également sur l'Asie, et que ce soit en Inde ou en Chine, on a des attentats et on a de très grandes tensions religieuses, donc il n'y a pas du tout d'alliance. Et ce que Huntington n'avait pas vu non plus, c'est que au sein même du monde musulman, une des structures de notre temps, c'est le grand affrontement, la guerre d'au moins 30 ans entre les sunnites et les chiites.
Mais au-delà de cela, n'y a-t-il pas en quelque sorte un démenti de la prophétie libérale selon laquelle le commerce, l'amélioration finalement de la situation économique qui à l'échelle du monde aujourd'hui est avérée, eh bien cette amélioration devrait en quelque sorte s'accompagner d'une pacification de ce monde? On assiste aujourd'hui à l'état inverse et comme vous l'expliquez dans votre ouvrage « Danser sur un volcan », un retour de la guerre, Nicolas Bavrez.
Les vrais libéraux savent que la politique est autonome. Et donc, c'est pas la logique des intérêts joue, mais la logique des passions est malheureusement toujours supérieure. Et dans ces passions, on l'a dit, il y a les deux grandes passions qui sont le nationalisme et la religion. Aujourd'hui, on a d'un côté le réveil des empires chinois, russes, perses avec l'Iran ou turc, et de l'autre côté, ce djihad mondial dont on voit encore les investigations sur les attentats du 13 novembre et puis la tentative d'attentat à Bamako. Donc il ne se passe pas de jour sans tentative d'attentat de la Turquie à Bamako en allant également au Pakistan ou ailleurs.
Est-ce que c'est une situation qui, en quelque sorte, vous surprend, Nicolas Bavrez, ou bien est-ce que ça témoigne, là aussi, d'une véritable modification à l'échelle géopolitique ?
Ce sont des modifications très importantes, mais si vous voulez, c'est notre faute si nous sommes surpris. Quand on regarde ce qui s'est passé, tous ces chocs, ces surprises n'auraient pas dû en être la montée de l'État islamique, le Brexit, la crise des migrants. La crise des migrants, elle était prévisible. À partir du moment où on voyait exploser le Moyen-Orient et puis l'Afrique du Nord, on n'a rien fait et puis finalement, on s'est retrouvé diminué. Ou la montée du cyber. Derrière, il y a des révolutions énormes, des révolutions démographiques, économiques, financières, technologiques, stratégiques. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'adapter. Croire qu'on va pouvoir faire face à tous ces chocs avec les idées et les structures de la fin du XXe siècle, voire des années 1970, comme le croit la France, évidemment, c'est la garantie d'avoir la garantie d'être marginalisé. Et à terme, peut-être, de voir la liberté menacée.
Brice Couturier.
Vous êtes libéral et moi aussi. On dit souvent qu'en France, il n'y a pas de libéralisme politique possible parce que la droite est autoritaire et étatiste, clientéliste, et que la gauche est socialiste et donc anti-libérale. Beaucoup disent au contraire qu'en réalité, les jeunes générations se comportent de manière libérale, de manière parfaitement spontanée, que dans leur vie quotidienne, dans leur façon de travailler, dans leur façon de gérer leur vie privée, ils se comportent de manière libérale, et l'ubérisation montre que effectivement, ça rencontre un écho parmi parmi plutôt et les start-up rencontrent un écho dans les jeunes générations. Est-ce que vous croyez qu'un jour le libéralisme spontané des jeunes générations pourrait se traduire par un mouvement politique, se traduire politiquement?
Nicolas Bavrez. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que d'abord la société française bouge, les mentalités bougent sur beaucoup de ces questions. Il y a les jeunes, il y a les technologies. Ça, c'est un point qui est tout à fait positif. De l'autre côté, le système politique bougera peut-être aussi. Il y a deux choses qu'on peut voir aujourd'hui. D'abord, l'éclatement de la gauche, qui est quand même en cours. Et à droite, on va regarder les programmes, mais apparemment sur les primaires, les programmes seraient plutôt plus libéraux qu'à l'accoutumée.
Amélie Perrier vient d'entrer dans ce studio. Une information apportée à la connaissance de nos auditeurs.
Oui,
Amélie
parce
Perrier.
On vient d'apprendre qu'une double explosion s'est produite ce matin, un petit peu avant 8h à Bruxelles, à l'aéroport de Bruxelles. Alors, on a assez peu d'informations pour l'instant sur cette explosion. On ne connaît pas l'origine de cet incident. C'est la presse belge qui nous en parle. Nos correspondants effectivement confirment qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave à l'aéroport de Bruxelles. Il y aurait plusieurs personnes blessées. On y reviendra dans notre journal de 9h.
Merci beaucoup Amélie Perrier. Effectivement, on vous tiendra informé à 9h de ces développements. Nicolas Bavrez, en tout cas le terrorisme occupe une place importante aujourd'hui dans l'actualité. Il en occupe une également dans votre livre. Et là aussi, on voit que le monde a bien changé en l'espace de 15 ans. L'hypothèse d'une pacification est désormais écartée. Quelles sont les pistes que vous pouvez dessiner pour l'avenir ?
Alors, la nature du terrorisme, elle a changé puisque, classiquement, les États instrumentalisaient les groupes terroristes. Aujourd'hui, nous avons des groupes terroristes qui ont pris le contrôle d'un État, ça c'était Al-Qaïda en Afghanistan, et maintenant un groupe terroriste qui, de fait, c'est pour ça qu'il faut l'appeler l'État islamique, parce qu'il assume vraiment les fonctions d'un État sur la zone qu'il contrôle, avec la justice, la police, l'émission de la monnaie, des services sociaux, évidemment la partie militaire. Donc, c'est vraiment une forme politique nouvelle avec trois zones d'action, le Moyen-Orient, l'essaimage avec les filiales jusqu'à Boko Haram, et puis nos sociétés à la fois comme cible et puis comme zone de recrutement. Et c'est pour ça qu'il faut déployer en face de ça une stratégie globale qui pour l'instant n'a pas été, à mon avis, complètement mise en place.
Nicolas Bavrez, on l'a entendu, votre constat est plutôt pessimiste sur la France. Vous dites qu'il y a des opportunités à saisir dans le monde entier, mais ces opportunités ne sont probablement pas saisies aujourd'hui, selon vous, par notre pays. Il y a une échéance en 2017. Comment percevez-vous cette échéance qui pourrait, en quelque sorte, incarner ce renouveau que vous appelez de vos voeux pour notre pays?
Alors, très vite, dans le monde, il y a les risques, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. On a parlé de l'Afrique qui redécolle. Il y a les nouvelles technologies qui peuvent aussi apporter beaucoup de croissance, faire des gains de productivité spectaculaires, qui peuvent révolutionner l'éducation ou la santé. La France, c'est un cas clinique. Pourquoi? Parce que le diagnostic, maintenant, il est parfaitement posé. On sait pourquoi la France et tant déclin. La réalité, pourquoi? Les remèdes sont à peu près tous connus, documentés. Tous les rapports qui ont été faits, du FMI jusqu'à la Cour des comptes, en passant par la BCE ou l'Union européenne. Et le problème est uniquement politique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer à l'acte et à faire ces changements. Donc c'est pour ça que 2017 est une échéance décisive, parce que dans notre système politique, l'élection présidentielle, c'est le moment où les Français réfléchissent à leur destin et au destin du pays. Donc, on ne va pas, pour le coup, refaire notre constitution. Elle a ses qualités, ses défauts, mais elle fonctionne de cette manière-là. Et c'est pour ça que cette occasion ne doit pas être perdue et qu'il faut, cette fois-ci, arriver à débattre au fond de nos problèmes, échapper à la tentation de la démagogie, qui n'est pas le monopole du Front National, puisque, malheureusement, il a beaucoup contaminé les partis dits de gouvernement. Et donc, cette fois-ci, discutons des problèmes de la production, discutons pourquoi est-ce qu'on est le pays du chômage, discutons des dépenses publiques, discutons de l'éducation, discutons de la manière d'intégrer les jeunes et les immigrés et leurs descendants, discutons de la manière de lutter contre l'État islamique, mais d'une lutte qui soit une lutte effectivement globale et efficace. Et il faut être clair, il n'y aura jamais de réponse purement militaire ou purement sécuritaire sur la menace de l'État islamique. Il faut intégrer tous les autres éléments de l'action, y compris sur le système éducatif et sur le marché du travail.
Et pour 2017, est-ce que vous comptez vous engager, Nicolas Bavrez ?
Ben, moi, je m'engage à ma manière, c'est-à-dire que j'essaye d'éclairer, de mettre à la disposition des citoyens français une analyse d'un monde qui est complexe et de ses révolutions. Pour l'engagement politique, je crois qu'il me semble qu'il manque pas de candidats.
Merci. Nicolas Bavrès, Danser sur un volcan, c'est le livre que vous publiez aux éditions Albin Michel. Vous restez avec nous, on va écouter de la musique.